bienvenue dans le podcast Nos années 2000 où j'invite les artistes qui ont marqué les années 2000 et qui ont fait vibrer vos MP3 et celui de toute la génération 2000 à replonger dans les souvenirs de cette décennie culte. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'artiste qui s'est imposé tel un rock dans les années 2000. Elle a électrisé les scènes de toute la France et du monde entier, vendu près de 5 millions de disques à son actif des tubes entraînants qui continuent à nous mettre des KO à base de valses, de Chopin sur fond de rings de boxe et des feats mémorables avec des stars internationales comme Kelly Rowland ou encore Enrique Iglesias. On lui doit notamment « Et c'est parti », « Parle-moi » ou encore « Ami ennemi ». Je veux bien sûr parler de la divine Nadia.
Merci Séverine, je suis trop contente d'être là déjà.
Bienvenue dans nos années 2000 et je sais que tu n'acceptes pas beaucoup d'interviews. Et pour ça, je suis très très heureuse que tu sois avec moi et merci de ta confiance.
Bah merci. Moi c'est aussi, ça a du sens d'être là aujourd'hui avec toi. Et puis tu as le sens de raconter, de bien nous raconter, tu vois. Et ça c'est aussi un gage de confiance. D'amour aussi. Donc on est là.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bon, on continue si tu le veux bien, parce que j'ai tellement de choses à dire sur toi. Donc à l'origine, tu te fais d'abord remarquer pour tes performances sportives, douée pour l'athlétisme. T'es championne de France du 800 mètres à 15 ans, puis à 16. Quelques années plus tard, un autre rêve vient chambouler ce début de carrière sportive. La musique. Mm-hmm. Et à 20 ans, tu décides donc de profiter d'une sélection d'athlètes à Paris pour tenter ta chance à l'émission Graines de Star sur M6, que tu remportes 3 fois.
Yes.
Rien que ça. Ouais. Tu t'installes à Paris et en 97, tu sors ton premier single, Dénoue mes mains, qui ne te plaît pas vraiment.
C'est pas qu'il me plaît pas, non. C'est qu'en fait, il y a une machine, je sens une machine qui est en train de se mettre en place. Il y avait, tu sais, la vague R&B à l'époque qui était très, très, très présente. Et en même temps, c'était pas très représentatif de la direction, on va dire, que j'avais envie de prendre. Parce que j'avais l'impression de coller à un mood, parce que le mood était, faut aller faire du R&B. Alors que moi, c'était pas, je me cherchais, en fait. Et donc, étant en quête, je me suis dit, bah non, on peut pas me forcer. En fait, moi, je pars de ma petite ville natale de Tours. Je quitte ma famille, quand même, mes parents, mes frères et sœurs. Et je me dis, c'est non, cette injonction, c'est pas possible, je peux pas, je l'avale pas, quoi. Donc je commence à dire non, en fait.
On y reviendra, parce que j'aime ce côté de toi qui sait exactement.
Je résiste, mais parce que je sais, alors au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas parce que j'ai pas une boule de cristal, mais en même temps, bah c'est ce que j'appelle la foi, quoi, tu vois. C'est très réel, en fait.
Et le flair.
Oui, ben ça va avec.
Tu as beaucoup d'instinct. Donc du coup, quelques années plus tard, tu reviens aux côtés de Stomy Bugsy avec le single « Aucun Dieu ne pourra me pardonner ». J'adore d'ailleurs la pochette de ce disque.
Ah ouais,
elle est dingue. Ouais. Déterminé à creuser ton sillon dans la musique, et en 2001, tu te lances en solo avec ton premier album « Changer les choses ». Et si le disque ne rencontre pas forcément le succès escompté, il pose tes jalons, les jalons de ta carrière. Et c'est avec la sortie de ton deuxième album, 16-9, que tu arrives tout en haut de l'affiche. Avec 600 000 disques vendus, une victoire de la musique du meilleur album, rap, hip-hop et R&B. La consécration.
Ouais.
Alors, vraiment, tu viens de l'aborder, mais moi, ce que j'aime, c'est que tu fais partie de ces artistes qui ne se laissent pas faire, qui tiennent tête et qui savent exactement, qui écoutent, c'est ce que je disais, qui écoutent leur instinct, qui écoutent... au fond de toi, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller.
Oui, j'ai une vision. J'ai la vision d'où je veux aller. Comment. Alors après, comment je vais faire pour y arriver?
Je
me donne l'énergie et les efforts pour le faire. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, quoi. Moi, si je devais dire à des jeunes artistes aujourd'hui, d'écouter à l'intérieur de soi ce qui vibre. Et si ça colle pas avec ce que te propose l'extérieur, bah résiste un petit peu, quoi. Alors évidemment, c'est pas un chemin facile. De toute façon, le métier d'artiste, c'est un métier extrêmement difficile. Ça demande d'aller au-delà des impondérables de la vie. Mais c'est en même temps une très belle école de vie. C'est apprendre à se battre, en fait. Et parce que moi, à l'époque, tu disais très bien, j'arrive avec un premier album en 2001. Alors, pareil, là, je me bats quand même pour réussir à faire un album de titres inédits. Alors qu'on me propose déjà, tout au début de ma carrière, juste après Graines de Star, de faire des reprises. Pendant 3 ans, on m'a un peu éprouvée. C'est-à-dire qu'on me faisait enregistrer des trucs, parce que j'avais déjà un contrat avec une maison de disques. Et donc, j'allais enregistrer. Et puis, au final, comme j'avais le final cut, je disais non. Voilà. Donc, je faisais les choses.
Tu t'entraînais, en fait, c'était
voilà.
bien.
Et je disais non. Et jusqu'à un moment, on m'a dit, bah, écoute, ma cocotte, là, ça va être compliqué, parce que tu vas... qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je dis, écoute, moi, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Je leur disais déjà à l'époque, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais moi, je savais que l'ineffable allait me proposer quelque chose. C'est vrai. 3 mois après, bim, bam, boum, j'entends ce beat de parle-moi, et là, je sais, à l'instant, que c'est ça.
Donc, tu découvres, alors, pour resituer un petit peu, tu entends ce son, par hasard.
Ouais, par hasard, dans un bureau.
Dans un bureau. Et tu dis, c'est ça. Sauf que tu rencontres le compositeur.
Ouais, et il me dit, ça va être compliqué. Et en plus, il ne voulait pas la donner, la chanson. Parce que c'était son truc, c'était son bébé. Et je lui dis, non, laisse-moi poser, laisse-moi tester. Mais il me dit, bah, j'entends l'engouement, la ferveur, mais en gros, c'est perdu d'avance. Je lui dis, donne-moi ton truc. Je me suis enfermée chez moi, un mois et demi, et j'ai travaillé seule. Je m'entraînais, je m'en rappelle. J'ai toujours fait un peu d'entraînement, d'athlée qui m'est resté.
Mais c'est cette rigueur qui, du coup, t'a permis aussi dans la musique d'affronter des choses. Et,
ah ouais, je me souviens même de faire des pompes à 4h du matin. Et en ayant Parle-moi dans les oreilles, en fait. Pour vraiment, en fait, un peu comme un acteur studio. C'est-à-dire que moi, mes chansons, c'est je deviens, là, j'incarne, en fait. J'habite ma chanson. C'est pour ça que 20 ans après, quand je les chante, enfin, tu vois bien, quand je suis sur scène... Et je me dis pas, cette chanson, je l'ai faite il y a 20 ans, quoi.
T'es une autre personne.
Je suis animée au niveau cellulaire, et tu le vois bien, je le communique ça aux gens. Et c'est ça qui me transcende, et qui est en zéro décalage avec qui je suis intérieurement. C'est pour ça que c'est pas une chanson que, si tu veux, qu'on m'a donnée, que... Non, parce qu'après, toute la suite des autres, par contre, là, c'était... tu vois, c'est parti, par exemple, c'est moi à 510 000%, c'est-à-dire dans ma manière d'être, de comportement, de regard, de vision, de comment je suis pugnace à me remettre en question tous les jours. Cette chanson, c'est ça, en fait. Et en fait, les gars, ils se sont imbibés de moi, jour et nuit, parce qu'en plus, je dormais sur un matelas par terre au studio, à la campagne, et on avait même refusé d'aller dans des studios
professionnels.
On voulait vivre avec la lumière du jour, la nuit qui tombe. On avait des vaches dans des champs, et on voulait absolument même pas écouter ce qui se passait en radio. Pour te dire. Donc, je savais que j'allais me confronter à une autre bataille après
ça. Tu m'étonnes.
L'autre bataille, c'était, c'est pas format radio.
Et tu n'as pas fini ton histoire. Je veux que tu continues cette histoire. Donc, tu t'enfermes pendant un mois et demi.
Ouais.
Et tu ressors de là et t'es... Rien ne t'arrête. C'est-à-dire que ce morceau, tu le veux et tu repars en studio.
Et je repars en studio et je me souviens... Enfin, moi, je le savais pas comme ça parce que j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Et le compositeur m'a dit, est-ce que tu te rappelles comment t'es arrivé? En fait, dans ton regard, il m'a dit, j'ai eu peur. Il m'a dit, je me suis dit, oula, je sais pas ce qu'elle va faire, et parce qu'il était très déterminé lui aussi par rapport à tenir sa chanson. Il m'a dit one shot, quoi. Et je suis arrivé, il m'a dit, t'es arrivé avec un baggy militaire et un Marcel. Ah ouais? Je lui ai dit, ça, je me souviens plus de comment j'étais habillée. Et ben, il me dit, moi, je peux te dire comment tu étais. Et tu t'es mis face au micro, c'est comme si tu rentrais dans un ring de boxe. Putain, il m'a dit, t'as envoyé, quoi. Eh ben ouais, j'ai joué ma vie, quoi. En fait, c'est, tu vois, pour en revenir à ça, je peux pas m'en empêcher, s'il y a des jeunes qui écoutent, mais votre destin, il est dans vos mains, quoi. S'il est pas à côté, il est... faut tenir la barque, et... Il est très bluffé parce qu'il fait écouter à son entourage qui sont aussi dans la musique et qui sortent des disques. Et ils font écouter, ils disent, mais ah ouais, c'est qui, c'est quoi, c'est qui? Bah, il dit, c'est Nadia. Il dit, non.
T'imagines quand même.
Bah non. Bah, il dit, si, c'est elle. Et il dit, non, mais c'est une autre personne, c'est pas possible, quoi. Et là, il m'appelle 15 jours après, quoi, parce qu'il tourne.
Et il te laisse un peu.
Ouais, ouais. Hein. Et il me dit, on va y aller, quoi. La chanson, elle est à toi, quoi. Et là, ça a été le début. Après, c'est vrai que de voir ça, je l'ai laissé capitaine à bord. Parce que je savais qu'il allait m'emmener dans des endroits que seul, j'aurais jamais pu expérimenter. Et ça encore, ça s'appelle la confiance, en fait. Mmh. Mais la confiance, tu vois, c'est, ça se donne, mais avec de la preuve. Et là, cette preuve-là, il l'a pris en pleine face. Et là, moi, je crois que je pouvais pas tomber KO, ça c'était certain.
Et cette rigueur, tu l'as obtenue grâce au sport, finalement.
Ah ouais, ça a vraiment jalonné. Oh, ça a été un phare pour moi, le sport. Et puis après, le sport de haut niveau aussi, c'est ça. Hein, c'était pas du sport loisir, mais c'était un sport passion. Donc c'est quelque chose qui m'animait, c'est pas quelque chose qui me pesait. Et encore une fois, pareil pour la musique, tu mets un grand coup de frein à main au moment où, évidemment, t'es en numéro un partout. Et ça, c'est vrai que ça, je peux comprendre hein, qu'on ne puisse pas comprendre le process.
Mais du coup, ça peut aussi renvoyer une image de toi qui n'est pas la bonne.
Ah ouais, complètement.
Parce qu'on peut tout de suite te cataloguer de casse-pied parce que tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu n'es pas le bon petit soldat.
C'est ça. C'est ça, et en même temps,
tu sais ce que tu veux.
En même temps, je pense que les chansons qui ont jalonné le temps là, des années 2000, vous n'aurez jamais pu les avoir. Et puis même les émissions de télé aussi qu'il y a eu, et les tournées et les clips. Mais si j'avais pas résisté, je n'aurais jamais pu faire autre chose. Ou j'aurais fait autre chose et puis j'aurais pas été reconnue dans la musique. Mais de toute façon, il n'y avait pas de plan B en fait.
Tu as ouvert la voie à des tas d'artistes. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit hein, d'ailleurs. Mmh. Pendant la tournée I Got a Feeling, la tournée événement des années 2000, qui était un événement Chérie FM d'ailleurs. Et ce qui est complètement dingue, c'est que quand tu rentres sur scène, la ferveur, elle est mais toujours la même. C'est-à-dire que les gens sont fous quand tu rentres sur scène. Et puis moi, je te vois en coulisses. Mm. Tu te prépares, mais comme une vraie athlète, enfin, comme une boxeuse. Et je me souviens de certains plans où tu attends en bas de l'escalier pour monter.
Ouais.
Tu prépares, tu es dans ton truc, tu es comme ça.
Ouais, ouais.
Tu es vraiment.
Je suis concentrée. En fait,
t'es concentré, c'est ta façon à toi de te concentrer.
Et c'est vrai que j'ai ce côté un peu transcendant, en fait, d'aller se challenger, voilà, sans parler de compétition. Attention, hein. En tout cas, à 52 ans, j'ai passé le cap de ça, et heureusement d'ailleurs pour moi.
C'est fou parce que dans toutes tes chansons, je me suis réimprégnée de toutes tes chansons, et dans toutes tes chansons, il y a une espèce de force, de puissance qui émane des morceaux qui te portent. Mmh. Et en fait.
C'est conquérant, en fait.
Ça transparaît tellement, ça transpire tellement que du coup, forcément, quand tu écoutes tes morceaux, et c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit quand j'écoute les morceaux de Nadia, eh ben, j'ai l'impression d'être reboostée. T'es une sorte de batterie, en fait, et une recharge.
Ouais, ça me va bien, ça.
Voilà.
Ça, j'aime bien.
Donc, évidemment, tu reviens sur la tournée I Got a Feeling. Tu vas aussi, et là, c'est un événement, fêter tes 30 ans de carrière.
Ouais.
Au Cirque d'hiver, donc ce sera le 18 décembre prochain.
Yes.
Et alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, tu avais tourné Graines de Star au Cirque d'hiver à l'époque, que tu avais gagné.
Ouais.
Et cette même date, a priori, c'est ton fils, a priori, qui te l'a souligné.
Ouais, ouais.
Quelque part, ça y est, la boucle est bouclée, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est l'histoire des cycles, hein, en fait. Hein. Tu sais, c'est quand tu forces pas le destin. La vie, elle te propose des choses, c'est merveilleux. Et 30 ans plus tard, on me propose de faire cette salle, pour moi, mythique, hein, parce qu'elle propose des tableaux, c'est le monde des circassiens. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ce monde-là à mes côtés, ce monde-là, parce que mes chansons sont des tableaux et qu'on a l'occasion et l'opportunité de pouvoir proposer quelque chose et de dire merci surtout à tous ces gens qui me suivent depuis ces années.
Tu es très reconnaissante. Et alors, forcément, j'imagine que tu seras dans un lieu absolument magique et que tu nous réserves de très belles surprises. Et alors, te connaissant, je pense qu'il y en a un paquet.
Ouais. En tout cas, ça me travaille bien la tête parce que j'ai vraiment envie de proposer quelque chose à la hauteur de l'événement, en fait, du temps qui est passé aussi. Et donc, ça cogite.
Bien. Et alors maintenant, je veux qu'on parle de ton dernier bébé, VHS,
yes.
Voyage hypersonique,
yes.
Et non pas cassette VHS. Ben ouais, parce que ça aurait pu prêter à confusion.
Ah ben non, mais on est parti sur la base.
Mais un petit peu aussi, quand même.
Ah ben non, mais c'est bah, si tu regardes les images
quand
qu'on
on voit tes visuels.
C'est l'époque 70-80 VHS.
Là, on a l'impression que sur ce projet, tu te fais plaisir, t'as plus rien à prouver, c'est juste de l'éclat, et que là, tu oses tout, en fait.
Et puis surtout, pour en résonance avec l'album 16/9, parce que j'ai
oui,
toujours ce rapport.
Oui, j'ai dit 16/9 tout à l'heure, mais c'est 16/9, c'est en rapport avec 16/9.
Ah bah 16/9 format, ouais. L'album qui était avec des sonorités de films qu'on avait tous vus au moins une fois. Là, ce serait des séries TV. Et on est dans vraiment quelque chose de nostalgique. Et en même temps, nous, on a connu là avec cassette VHS, mais les jeunes ici aujourd'hui, VHS, ils ne savent pas ce que c'est.
Ben non.
Donc, quand ils vont voir Voyage Hypersonique et qu'ils vont faire la relation avec la cassette, le parent qui va dire, mais non, VHS, c'était vidéo home studio. On essaie de fédérer les générations entre elles, en fait, tu vois. Je pense qu'un artiste, s'il n'est pas témoin de son temps, il passe à côté de certaines choses, tu vois. Donc, moi, j'aime l'idée d'être témoin, en fait, d'arriver avec des sonorités actuelles, avec une production actuelle qui pète et qui tape et qui reste puissante. Et en amenant une musicologie, cette histoire de la pop culture, en fait. D'amener ça à ces nouvelles générations qui écoutent les radios et voilà.
Et justement, tu penses quoi de tout cet engouement pour les années 2000 qui revient aujourd'hui ?
C'est un peu aussi mon projet, quelque part. C'est dire à quel point la musique qui a traversé les 20 dernières années était... Il y avait de tout, en fait, c'était très éclectique. Même s'il y avait eu des vagues avec des beats très précis à un moment donné, on est passé du 100 BPM dans les années 2000, après, plus dans la vague DJ, David Guetta, à 120, 130 BPM. Tu vois, il y a des périodes comme ça dans la musique, et puis pff, on revient, comme tout le temps, l'histoire des cycles. Puis cette envie aussi de... Parce que dans les années 2000, il y avait une panoplie de styles différents.
Tu retrouves ces influences des 2000 aujourd'hui, dans les sons d'aujourd'hui ?
Moins qu'avant. Parce que moi, je me souviens dans les années 2000, je ne sais pas si tu te souviens, mais même les titres qu'on entendait, même les titres US, ils reprenaient déjà eux-mêmes des titres très pop, des samples.
C'était des samples, c'était que ça.
Donc, tu vois, on reprenait des classiques des titres, puis ce que j'adorais, c'est l'éclectisme qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on allait chercher un titre de Police pour le mettre dans un truc de rap, tu vois. On avait Faith Evans qui allait chanter... ce titre de Police, mais en mode soul, quoi. Tu vois, il y avait vraiment il y avait une musicalité quand même. Et d'ailleurs, qui était forte. Et d'ailleurs, ce que je remarque,
un héritage. Donc c'était vraiment
un héritage, voilà. C'est ça, ouais. Et ce qu'on peut voir nous dans les tournées, c'est ces jeunes filles qui viennent accompagnées de leur maman ou de leur sœur ou de leur tante.
Multigénérationnel
qui te dit ah ouais mais moi j'écoute j'aime bien écouter les titres qu'écoutent mes parents parce que vous à votre époque il y avait ça et voilà quand même aujourd'hui il y a beaucoup de chansons
ça va
très très vite.
Avec quel artiste d'aujourd'hui tu aimerais faire un duo?
Daft Punk ouais, enfin je sais qu'ils sont plus mais j'aimerais bien et j'aime beaucoup ce que fait Thomas Mangalter. Et voilà, oui. Donc parce qu'on a en commun ce goût pour la vision de la pop culture en fait. Voilà.
Bon, on a aussi une rubrique pour toi public.
OK.
Tu entretiens un lien très très fort avec tes fans.
Oui.
Et cela, enfin en tout cas depuis toujours. Mm-hmm. Et là je le vois moi sur les scènes que je fais avec toi, c'est une communion, c'est une alchimie que vous avez entre vous. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que sans eux, tu ne serais plus là.
Ah oui, oui, complètement.
Tu as donné tellement, je pense que tu as été d'une telle générosité qu'ils te le rendent bien.
C'est vrai que j'ai des chansons qui sont très puissantes, en fait, en termes de production, en termes d'envoyer. Donc ça se communique, hein. C'est énergétique. Hein. Ça va au-delà de... C'est quelque chose de physique, physiologique. Pour moi, même ne serait-ce qu'un regard ou un point qui est hyper fermé, que je vois, moi, en étant sur scène, parce que les gens ne voient pas, mais moi, j'aime bien m'amuser à fixer des attitudes, des regards. Et quand je vois que les regards et les mains se délisse au fur et à mesure du concert, là, c'est gagné, quoi. Mais ce qui crée cette alchimie, c'est ce degré de sincérité que j'ai à l'instant T, au moment où je livre quelque chose. Et tu parles d'alchimie, c'est ça.
Et puis tu as fait évidemment beaucoup d'émissions hein, dans les années 2000. Ouais. Tu as fait toutes les émissions de Thierry Ardisson.
Oui.
Évidemment, qui comptait beaucoup pour toi.
Hein, ouais, énormément. Cru en toi. Ah ouais, mais ouais.
Parce que évidemment, tu as fait Graines de Star, que tu as gagné 3 fois carrément. Pas une, deux, trois.
Ouais.
C'était
ouais.
complètement dingue. Et donc évidemment, dans les années 2000, tu as eu l'opportunité de collaborer avec des stars internationales. Et je me souviens d'un passage télé où tu avais une robe rouge.
Oui.
Et tu chantais ton duo avec le beau Enrique Iglesias.
Oui.
Et vous étiez très très complices sur scène. D'ailleurs, votre duo a fait beaucoup jaser à l'époque. Hein.
On avait fait la fête de la musique aussi. Et il m'avait dit, bon, on fait quoi sur scène? Parce qu'on était pendant la promo, on s'apercevait que dès qu'on... En fait, on s'amusait à s'éloigner et à se retrouver. Il me dit, t'as vu, mais il me disait, c'est des fous, quoi. Il me dit, dès qu'on se remettait, on courait l'un vers l'autre, ça hurlait de partout, quoi. Et je me souviens, on avait fait la fête de la musique, il y avait à l'hippodrome de Vincennes, c'était blindé. Et on a dit, bah ouais, ok, on y va, quoi. On joue, quoi. On est au cinéma, quoi. Et on a fait ça. Et ensuite, on a enchaîné avec d'autres émissions. Et oui, bien sûr qu'on a joué de ça parce que c'était... Franchement, cette chanson, au départ, il ne pensait pas du tout... quand il m'a proposé de venir chanter avec
lui... Ça allait avoir une telle portée.
Non, parce que ce titre-là, il l'avait sorti quelques mois avant et ça n'avait pas marché aux États-Unis. Et moi, je lui avais dit, de tout le répertoire justement qu'il me proposait, il y avait des sons un peu R&B, alors qu'on sait que... Mais parce que c'était la vague du moment. Et moi, je lui ai dit, j'irai pas là-dedans parce que j'ai un univers assez pop. Et par contre, tu vois, cette chanson, elle est très pop. On accélère un petit peu le beat. Tu me laisses réécrire les paroles parce que la chanson était dark quand même. Et on tourne un clip. Et il m'a dit, j'ai dit, ouais, non, mais là, c'est... On fait ça, on écrit une histoire... Et on y va, c'est toujours ce degré de sincérité. Et c'est ça qu'il a capté chez moi, et que du coup, il est allé voir ses équipes, chose qu'il ne fait jamais, hein, parce que c'est quand même, il vit aux États-Unis. Et ce qui a fait qu'il s'est dépassé là, sur cette histoire, c'est que c'est un latin, en fait. Mmh. Il parle comme moi, en fait. On s'est compris. Et il m'a dit, tu sais quoi, je te fais confiance. Alors que je peux te dire, de son côté, ses équipes lui disaient, non, non,
c'est pas
non,
gagné.
Non. Et vraiment, la première personne qui m'a appelée quand le titre est sorti, et moi je lui avais dit, on sera numéro 1, tu verras. Fais confiance, je lui dis. Putain, fais confiance. Il m'a dit, je te fais confiance. Et on a été 13 semaines numéro 1, tu vois. Donc, mais parce qu'il y avait cet engouement, et puis c'était l'heure. Parce qu'il me convoque sur cette histoire un an avant. Et moi, j'avais ma tournée live. Et pour moi, la scène, c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Moi, j'attendais ça depuis très longtemps. Moi, je suis une fille de la scène. Hein. Je vis pour la scène. Et il m'avait dit, et même ma maison disque m'a dit, mais tu te rends pas compte, mais t'es taré. Je dis, taré de quoi? J'ai dit, non, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, c'est toujours pareil. Ok, on m'invite pour faire un truc, mais pour faire quoi en fait? Donc je lui ai pas dit non. Je lui ai dit non. Sur le moment.
Sur le moment.
Et je lui ai dit, par contre, dans un an, tu vois, j'aurais fini ma tournée et on verra, tu vois. Et il m'a rappelé tout de suite, il était à Paris déjà, il m'a dit, on peut se voir, on peut déjeuner et tout. J'ai dit, ok. Et puis, comme toi et moi, là, tu vois, on se balançait, on a commencé à se balancer une anecdote, deux, trois, on commençait à rigoler, puisque il est hyper...
Mais il est super sympa, moi j'ai interviewé pour voilà, Fan 2, il est hyper cool.
C'est ludique, quoi. Et du coup, on est parti pour ça.
Et puis alors moi j'adore Miss You.
Ah bah oui.
Mais cette fois-ci titre de Nadia.
Ouais.
Feat Enrique Iglesias.
Ouais, ouais.
Elle est géniale cette chanson.
Ah bah elle est en sur scène, elle est particulièrement très puissante. Moi je l'ai faite en live. Et ouais.
Et d'ailleurs tu gardes toujours contact avec lui après.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, c'est ce que j'ai vu ça dans une émission.
Ouais.
Et puis inoubliable duo avec Kelly Rowland.
Yes.
No Future in the Past.
Ouais.
Elle est dingue cette chanson.
Ouais ouais. Laura Main, écrit et composé par Laura Main, la chanteuse des Natives. Hein, ouais. Que j'adore Laura, pas de par sa capacité à composer, écrire de manière... ouais, moi, ce qui me relie à elle, c'est... Et après, sur les arrangements, évidemment, je suis allée dans ce qui me touche dans mon ADN direct avec ce que je raconte en musique, quoi.
Et je veux juste te parler de deux chansons, et notamment le duo que tu as fait avec Baran.
Oui,
cette chanteuse iranienne, hein, qui c'était rock en fait,
ouais.
qui est devenue un hymne pour la révolution des femmes iraniennes. Mmh. Et alors, je voulais te dire que j'adorais par-dessus tout ton beau duo avec Idir à mon père.
Je te remercie de citer Idir parce que c'était un peu mon papa spirituel. J'ai eu la chance de le rencontrer, de partager ces moments-là, d'avoir la chance de l'avoir comme intime en fait, qui venait à la maison, c'est un poète, hein. c'est vraiment quelqu'un qui est cher à mon cœur. Et il a accepté d'être sur le temps d'une chanson, de jouer le rôle de mon papa.
Et c'était magique.
Ouais.
Et je ne te pose pas la question, tu as fait des duos avec les plus grands. Si on avait encore un avec qui tu aurais aimé faire un artiste des années 2000, avec qui tu aurais aimé faire un duo?
Moi, si j'avais dû faire un... Moi, je décale un peu, mais moi, franchement, si j'avais pu faire un duo avec Whitney Houston... Pourquoi? Parce qu'elle m'a tellement... Elle a chaviré mon cœur et c'est elle qui m'a donné le déclic.
Donc, Whitney t'a beaucoup, beaucoup inspiré.
Ouais.
Quels autres artistes des années 2000 t'ont inspiré?
C'est vrai que Black Eyed Peas, ce groupe-là, c'était un groupe qui avait vraiment une énergie sur scène. Ils regroupaient un style musical à eux, 4, 3 ou 5, ils étaient.
5,
voilà, entre la chanteuse.
Fergie.
Voilà. Enfin, il y avait vraiment toujours un apport. La musique servait à quelque chose, quoi. Tu vois, il y avait... dès qu'ils arrivaient sur scène, ça bougeait, ça dansait sur scène, ça performait vocalement. Enfin, et puis la production était puissante, quoi. C'est... Ouais, franchement, oui. Avec eux, ça aurait été un truc...
Ton meilleur concert des années 2000 que t'as vu?
Justin Bieber. Non.
Timberlake,
pardon. Justin Timberlake. Pardon.
Ah bah, ouais. Dinguissime.
Ah ouais, dinguissime.
Évidemment.
Ouais. Ah ouais.
Et pour toi, le clip culte des années 2000 par excellence?
Bah, je vais rester dans cette veine-là. Hein. Même Cry Me a River, tu vois.
Your Clear Body.
Typiquement, voilà.
Bon, maintenant, on a envie d'ouvrir ton MP3.
Ouais.
La chanson des années 2000 pour faire du sport. À part rock... Ou c'est parti pour le show.
Lose Yourself de Eminem.
Ah oui.
Ah ouais, ouais. Ah moi, c'est direct. Hein. Ou Style de Dre, tu vois.
Oui. Oui.
Voilà, c'est celui-là ou celui-là. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très martial. Pourquoi? Parce que quand je m'entraîne, je suis en mode déter, quoi. Et il faut des beats très cadencés et en même temps racés. J'aime pas le beat pour le beat, moi, en fait. Tu vois, je ne pourrais pas écouter de la dance, par exemple.
La profondeur, tu vois.
Ouais, voilà, du deep, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais.
Le morceau qui n'a jamais quitté ta playlist?
Eminem, Lose Yourself.
Et donc, que tu écoutes en boucle, ouais, sans te lasser.
Ouais, mais celui-là, okay. c'est celui qui est dans ma playlist, qui revient en mode...
Tu m'as donné envie d'aller le réécouter, là.
Ah ouais, ouais.
Je peux te dire que quand j'ai fini l'enregistrement, je vais l'écouter direct.
Ouais.
Celui que tu chantes sous la douche?
Je chante Whitney souvent sous la douche. Ouais, Where do broken hearts go? Ouais.
Bon, ça, tu peux le chanter, ouais. C'est pas du rap.
ouais, ça fait I know it's been sometimes, but it's something on my mind. You see, I have been seen that cool November day with seven in space.
C'est super, merci. Donc, je veux te parler de rock, parce que rock, yes. Alors. Si mes infos sont bonnes, au début, c'était difficile en radio. Ils ne voulaient pas trop la passer.
Pas du tout, mais ils ne l'ont pas passée.
Ils ne l'ont pas passée. Tu as enregistré le clip?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que nous, on était persuadés que... Parce que c'est la continuité, et puis que l'album éponyme était rentré numéro 1. Hein, donc, c'est un album attendu par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et donc on part, on fait le clip tout de suite, quoi, voilà. Et on nous dit non, c'est trop live, c'est pas pareil, c'est pas format radio. Donc là on dit comment on fait, puisqu'on a un clip et tout. Il se trouvait qu'on était au mois d'avril, fin avril, et on s'est dit bon, Sony, je me souviens à l'époque, m'avait dit, bah là, on est mort, quoi. Bah non, à moins que on aille voir un diffuseur. Et puis, comme on a un clip fort, je savais qu'on avait un clip dans un stade. Et il se trouvait qu'effectivement, il y a eu la Coupe du Monde à ce moment-là.
En Allemagne.
Et que TF1 était partenaire de cette Coupe du Monde. Je leur ai dit, écoutez, parle-moi, mais regardez la pochette, quoi. Et en fait, il y a eu clac, clac, l'œil, le regard et l'oreille, deux paires. Et là, ils ont, alors qu'on n'était même plus dans les clous, parce que ça se décide 6 mois avant tout ça,
hein, oui.
Ils ont pris le titre tout de suite, en fait. Ils se sont dit, on le prend et on a fait un partenariat avec eux. Et c'est rentré numéro 2 tout de suite, quoi. C'est-à-dire que, et je te dis ça, c'était sans la radio, hein. Mais la force de frappe du diffuseur de TF1 à l'époque, on est rentré numéro 2 des ventes. Je m'en souviendrai parce qu'on était parti en Corse se reposer juste après. Et évidemment, après, bah, évidemment qu'il y a eu la Coupe du Monde, les gens dans les rues ne faisaient que chanter rock. Les drapeaux, les machins. Tout. Moi, je ne pouvais plus sortir. Hein. Moi, cette période-là, je ne sortais plus. Quoi, parce que.
Et c'est devenu l'hymne officiel finalement de l'équipe.
Ah ouais,
qui chantait
complètement.
Tout le temps rock.
Ouais ouais. Ah ouais ouais, complètement.
C'était magique.
Mais c'était ouais, moi je me souviens surtout de la ferveur des gens dans la rue.
Dans
quoi.
La rue.
T'imagines. C'était.
Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a dû
ah ouais,
faire quelque
ça,
chose.
Ah mais moi je me souviens, je balance une anecdote. Je me souviens, j'étais dans une rue dans le 17e et il y avait des camions et à un moment donné, t'as les mecs, ils avaient leur franchement c'est leur vitre ouvert avec rock, tu vois, dedans. Et là, il me voit passer, il fait, mais ah ! Et là, tu vois le mec, il déboule, il sort son chien. Comme ça, quoi.
Attention.
Mais c'était comme ça. Hein. Et pareil sur les Champs-Élysées, c'était. Non, je te dis, je pouvais plus sortir seule, vraiment. C'était. C'est très paradoxal, quoi. Et c'est pour ça que le temps a passé, j'ai eu ce besoin vital de récupérer un peu ma liberté, quoi. Et donc, de prendre du recul sur cet état médiatique qu'il y avait trop autour de mon nom, de mon projet, quoi, tu vois.
De te retrouver.
Et de me retrouver, de me recentrer et d'aller à l'essentiel, quoi.
Donc, à parler un peu mode, parce que t'es quand même une fashion victime, il faut le dire que...
Bah, oh, pas tant que ça, hein.
Ah, et pour le coup, tous tes looks étaient hyper étudiés. Et encore aujourd'hui, je sais que tu choisis tous tes looks,
ouais.
Que tu fais très attention. Et des fois, mais tu t'autorises des trucs, comme la dernière fois, on a fait un concert où tu m'as sorti une combinaison qui était dingue. Ouais, qui t'allait tellement bien.
De Superwoman.
Superwoman,
ah ouais, moi, j'adore.
Ah non, mais j'adore parce que, en fait, dans tous tes clips, t'es juste sublime, enfin, évidemment... T'es divine, donc tout te va. Mais ce que j'aime, c'est que tu choisis aussi tes vêtements. C'est-à-dire que
à tout,
Tout est savamment étudié, quoi.
Bah, en fait, ça fait partie de mon métier, en fait. C'est toujours pareil, c'est un état d'esprit, tu vois. Là, quand tu parlais de cette combi à la Wonder Woman, en fait, c'est un truc que j'avais jamais porté, mais quand je m'étais dit, bah, quand tu auras l'occasion, et puis bah, ce jour-là, j'ai toujours plein de choses, je prévois toujours 3-4 tenues, parce que je sais jamais comment je vais m'habiller, même la veille. Et parfois, il s'est trouvé de me dire, tiens, c'est ça, c'est du blanc. J'ai des infos parfois la nuit entre mi-veille, mi-sommeil. On me dit tiens un vert, blanc, rarement du noir, rarement.
Non c'est pas toi le noir.
Et quasi jamais d'ailleurs. Mais c'est un état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la dernière minute, il peut se trouver que non.
Au gré des humeurs
comme ça. Ouais, c'est une humeur, et tout à fait. Et en fonction de la vibe des gens, de la salle, d'un environnement. Et je crois aussi, c'est une manière d'honorer aussi les... Parce que tu sais, les fans, quand ils viennent nous voir comme ça, t'en as qui se tapent les 4 dates d'affilée. Et t'en as même qui se disent, tiens, elle était comme ça hier, ben attends, tu vas voir, aujourd'hui, elle va changer, ça sera pas comme hier. Et en fait, ils aiment ça. Et c'est une manière aussi, franchement, généreuse de me donner à mon métier, en fait. J'aime bien présenter. En fait, ce métier, je le respecte énormément.
Non,
c'est le mot d'ordre, en fait, qui me permet de, de présenter, en fait. Et tu sais, si tu me redonnes une anecdote en tête, c'est que Michel Drucker me disait, ça se voit. Il l'avait remarqué chez moi. Il m'avait dit, ta manière de venir te présenter à la télé, moi, il m'a dit, je t'ai repéré comme ça. Voilà.
Et ton pire look, s'il n'y en avait qu'un seul,
ah ouais, bah,
dont tu te souviens.
Oh, bah, c'est dans les années 2000, hein, je pense. Hein. Il y avait des trucs, franchement, oui, les cheveux, des fois, c'est ça manque de goût, quoi. Ouais, bah, on est jeune, quoi. On a l'âge qu'on avait. Voilà, quoi.
Et les tendances qu'il y avait à l'époque.
Ouais, exactement,
quoi.
Exactement.
Un accessoire des années 2000 dont tu ne t'es jamais séparé, ou alors qui te manque, qui n'existe plus.
Oh là là, je sais pas, tu dirais quoi, toi?
Je sais pas, ton vieux Nokia rond, où il y avait les touches.
Ah, l'iPod, rondes, là. L'iPod.
Ouais, ou l'iPod, ou. Ou les Buffalo? Les baskets Buffalo énormes, les plateformes shoes?
Non, moi,
ou
tu
ton
sais...
baggy?
Non. Et ben là, maintenant, tu m'as donné une idée. Tu sais, il y avait pas les portables. Enfin, il y avait les portables, mais avant les portables.
Bebop.
Le bebop. Là.
Qui sonnait.
On se faisait bip. Ça, ben voilà, la ceinture. Ouais. Ça,
non, c'était... le bebop, c'était pas le téléphone c'était... vert avec le clapet.
Non.
Où il fallait aller à côté des bornes.
En fait, on te laissait un message.
C'était le tam-tam.
Ah, le tam-tam.
Le tam-tam.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça avait cartonné, ça.
C'était énorme. T'avais un message.
C'était commencé le début des messages.
Exactement.
On n'avait pas les portables. Hein. Tam-tam.
Et un objet des années 2000 qui représente Nadia.
Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que moi. Quand je faisais du sport-études, et que je, juste même, parce qu'on est quand même dans les années 96, tu vois, on arrive à 2000. Moi, j'allais à l'école avec le Walkman. On m'appelait, de toute façon, c'était ça, je rentrais dans le bus, j'avais mon Walkman. J'arrivais au stade, j'avais mon Walkman. C'était ça, quoi. Et puis c'était à celui, après, c'était, ah tiens, j'ai ce casque, là, je vais économiser un petit peu, je vais aller m'acheter... le dernier casque, machin, le Bose, tu vois, dès qu'il y a eu les Bose et tout, non.
Et du coup, forcément, le casque qu'on retrouve dans tes visuels de VHS.
Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
Bon, elle en est où, ta comédie musicale?
Bah écoute, pour l'instant, c'est un peu, ce que je déroule là aujourd'hui, c'est un peu une espèce de... Alors, c'est pas une comédie musicale sur scène, mais c'est une musique qui est imbibée de d'énergie, d'image, de d'époque, de pop culture, et on est en train de raconter une histoire, tu vois. VHS, c'est un voyage, et donc on va dire que cette comédie musicale, elle sera réaliste au travers déjà un album, et puis déjà sur la scène, c'est déjà pas... Tu sais, c'est cette imagerie-là de circassien,
de cirque divers,
de gens
ça
du cirque, tout ça, ça peut m'amener plein d'idées de mise en scène. Tu vois, moi, à partir du moment où on raconte quelque chose avec une voix qui arrive comme ça, parce que des chansons, j'en ai beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, et au travers de toutes ces chansons, on peut raconter même une histoire complètement singulière. Et qui nous ramène à des chansons populaires que les gens connaissent, que tu connais, qui font partie de mon répertoire. Et donc ça sera dans le temps plus tard.
Je sens qu'il va se passer plein de belles choses le 18 décembre au Cirque d'hiver. Alors on a, pour clôturer ce podcast, on a une rubrique qui s'appelle « Après le bip ».
Ok.
Et j'aimerais que la Nadia des années 2000 reçoive un message de la Nadia de 2026.
Ah, ok. Salut, c'est Nadia. Écoute, tu sais pas ce qui va t'attendre là dans les 20 prochaines années, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que reste comme tu es, continue à persévérer et à donner le meilleur, d'être là pour les autres, pour ce que tu fais dans la musique et pour autre chose aussi. Et je te souhaite bonne chance. Bye.
En tout cas, merci, mais tellement de nous
merci
avoir
plongé dans
les années 2000.
Merci à toi, Séverine. Je te remercie pour ce travail que tu as de t'être replongé comme ça dans mon univers, parce que c'est un vrai taf. Et que et puis tu sais très bien le faire, parce que tu as ce côté solaire, et tu es entourée de couleurs qui te ressemblent.
Non, merci. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal, si c'était tellement passionnant.
Ah, mais écoute,
tu es
mais quand
une
même
de nos grandes artistes françaises.
C'est gentil.
Et
merci
on est
beaucoup.
Content, mais tellement heureux de te revoir et que tu réexploses à nouveau.
Merci.
C'est loin d'être fini.
Merci à toi, Séverine.
Merci à toi.
Merci.
En tout cas, vous venez d'écouter le nouvel épisode de Nos années 2000, le podcast Chéri FM des plus grandes stars des années 2000. Et aujourd'hui, on en avait une des plus grandes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et puis, évidemment, vous pouvez nous retrouver. C'est un podcast original Chéri FM que vous pouvez retrouver sur l'application, sur la plateforme Chéri, rubrique podcast, en audio, mais pas que, en vidéo aussi sur YouTube et Spotify. Et si vous avez aimé ce contenu, eh bien abonnez-vous, comme ça vous ne raterez aucun nouvel épisode. On vous embrasse très fort et vive les années 2000.
Salut.